Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Pignata! Sucrée, surette et délicieuse, la pignata Stadacone, c'est une explosion de saveurs qui fera lever le party, c'est assuré. Que tu préfères l'intégrer dans tes cocktails ou la consommation sur glace, on te promet que tous tes invités vont l'adorer. Nos quatre saveurs inspirées par les bonbons sont pêche surette, cerise atomique, pamplemousse surette et banane guimauve. Tu peux les trouver à la SAQ et à la distillerie Stadacone. En plus, plein de recettes de cocktails sont disponibles au stadacone.com. Santé!
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allié? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier et commandite, accompagnement droit étudiant, les retraites de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allié à commercial@allié.ulaval.ca.
Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le centre Hub Créatif. Le centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Toi aussi, tu fais de l'anxiété par rapport à l'actualité? Tu veux savoir qui est de ton bord et qui joue dans la même équipe que toi?
Ben écoute, chérie, je me mobilise. Une émission qui crée du lien social et qui permet d'être informé sur l'actualité militante des groupes communautaires et citoyens de tes communautés. Chérie, je me mobilise. Un lundi sur deux de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Parce que quand le feu pogne, tout brûle.
Il est 4 heures.
Mardi à tous, vous êtes à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et aujourd'hui à l'émission, on va commencer par une rediffusion, oui, de l'entrevue que j'ai fait avec un des cofondateurs de l'Écoute, festival d'art sonore qui a lieu en ce moment même et qui se poursuit jusqu'à la semaine prochaine dans la ville de Québec. C'est déjà commencé le week-end dernier. Par la suite, je vais avoir l'entrevue G1 Larouche, artiste en métier d'art et en sculpture, entre autres, qui présente une nouvelle exposition qui s'appelle Affleurement, qui est présentée dès ce jeudi. C'est son vernissage qui a lieu à l'espace Parent à qui est au Cégep cette fois. Et on va terminer ça avec une chronique littérature avec Alex Tremblay-Lamarche. Toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3, et je suis très heureuse d'avoir avec moi Thomas Tremblay, qui est le cofondateur du festival L'Écoute. Salut, salut!
Salut, ça va?
Ouais, ça va.
Salut, ça va. Là, on ouvre les micros.
Trop heureuse de t'avoir avec moi en studio pour parler du festival Rencontre L'Écoute, qui est un événement qui a été fondé en 2022. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse et de la mission de L'Écoute?
Oui, c'était quand même simple si on pense au début. Ça serait tellement bon d'avoir un festival de son qui s'appelle L'Écoute. Donc, pourquoi pas? Puis en même temps, 100%. On se disait... C'est ça, c'est juste ça, c'est valide. Et voilà. Non, mais aussi, j'étais étudiant en art à l'Université Laval. Puis on voulait vraiment créer une scène pour l'art sonore émergent à Québec. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Puis... c'est tout, nos professeurs nous encourageaient beaucoup à partir nos propres projets. Si vous voulez vous diffuser des projets que vous aimez, diffusez-les vous-même.
Faites-le, ouais, c'est ça.
Puis c'est vraiment une bonne idée, en fait. C'est vraiment une bonne suggestion. C'est vrai que c'est ce que je conseille à tout le monde. Et donc, on s'est juste dit, on va le faire, on va partir ce projet-là. Nous, les pratiques sonores, ça nous intéresse. On trouve que c'est un médium qui est pas épuisé, qui a comme tellement de choses, qui englobe beaucoup de pratiques, beaucoup de sujets, beaucoup d'intérêts. Donc, on s'est lancé là-dedans.
Puis j'ai curieux justement de savoir, toi, ça a été quoi tes premiers contacts avec l'art et les pratiques sonores?
Wow, ça, c'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt avec l'expérimentation comme musicale ou la musique expérimentale ou un peu de la... J'aime les personnages en musique, les choses qui sonnent un peu à gauche, qui sont souvent pas aimées. Fait que c'est souvent des groupes que j'allais toujours vers. Donc c'est toujours moi à l'écoute, par exemple, quand il y a... j'essaie toujours d'avoir un joker ou quelque chose qui est toujours un peu plus à côté de la plaque. C'est toujours les affaires qui m'attirent un peu plus. Donc c'est sûr qu'à l'université, on a eu des cours d'art, d'exploration en art sonore... etc. Mais moi, c'est plus du côté musical, un peu des affaires un peu plus comiques, quelque chose qui s'éloigne de la musique, mais qui en est en même
c'est
temps.
C'est ça. Mais peut-être pour les auditeurs, auditrices qui sont, tu sais, qui entendent art sonore ou puis qui se disent, ben, c'est quoi de l'art sonore? Comment on le décrit? Comment on,
ça,
on
l'explique? La question.
C'est ça. Comment on l'explique à des néophytes là, qui sont pas initiés encore aux pratiques?
Ben, nous, l'important, c'était de dire que c'était un festival de pratiques sonores.
Ouais.
Donc, c'est littéralement tout ce qui s'entend. Mm-hmm. Si ça s'entend, ça a sa place. Si, dans le fond, l'intérêt principal d'un projet, c'est qu'est-ce qui se passe dans tes oreilles, c'est quoi le son, comment ça me fait sentir, ben c'est un projet qui nous intéresse, là, dans le fond. C'est juste que ça doit être l'aspect principal d'un projet. Donc, c'est, tu sais, souvent, on va chercher des paysages sonores. Il y a du monde qui font de l'enregistrement puis qui vont créer des paysages sonores avec ce qu'ils entendent un peu dans la nature, les bruits que les objets peuvent faire. Des fois, c'est plus dans tes oreilles. Des fois, c'est cacophonique. Des fois, c'est déplaisant. Ça peut être plaisant. Ça peut être quelque chose que tu t'assois puis qui te fait transporter. Puis ça peut être quelque chose qui donne envie de courir en dehors d'une pièce. Peu importe. On va avoir tout ça à l'écoute, là. On englobe un peu tout. Mais c'est tout ce qui va se passer dans ce que t'entends. Donc, c'est pas juste l'art sonore. C'est pas juste la musique expérimentale, c'est vraiment tout ce qui s'entend.
Et ben, ce qui est vraiment intéressant avec l'écoute, c'est que vous avez appelé ça cette année, je pense pas que c'était appelé comme ça dans l'année dernière, tu me diras si je me trompe, cette année c'est le festival Rencontre l'écoute, puis je me demandais pourquoi est-ce que c'est important d'ajouter ou de un peu souligner l'aspect rencontre qui englobe en fait l'expérience de l'écoute.
Ça s'appelle le festival Rencontre depuis le début.
Ah ouais, OK, j'étais pas sûr.
Non, mais c'est bien correct. Ouais, ça s'appelle le festival Rencontre depuis le début. Ce qui est important, on trouvait que les pratiques en général, ils discutent pas beaucoup entre eux. Je trouve que c'est, tu sais, moi j'étudie en art visuel, puis honnêtement, j'avais pas vraiment beaucoup l'occasion de fréquenter la scène de musique expérimentale. Je visitais pas beaucoup la scène du balado. En fait, c'est notamment une grosse partie. Maintenant, on se rend compte. Avec le festival, il y a beaucoup de demandes en balado, plus comme expérimental ou en recherche ou différent de ce qui sonne d'habitude un peu. Puis en théâtre, en danse, qu'est-ce qui se fait dans ces milieux-là? Puis pourquoi j'en entends pas parler? Puis pourquoi je peux pas les voir? Donc, c'est sûr qu'ils font quelque chose avec du son, c'est sûr et certain. Fait qu'on voulait appeler ça le festival Rencontre l'écoute parce qu'on voulait vraiment avoir le plus de pratiques possible. Ça, c'est vraiment un objectif principal. On essaie qu'il y ait le plus de médiums possible qui se rencontrent dans le festival. Les artistes se parlent entre eux, ils créent ensemble, ils s'échangent un peu des idées, des points de vue. Puis même dans les éditions précédentes, on a eu beaucoup de monde qui finissait par travailler ensemble, faire un projet ensemble plus tard. Tu sais, il y a du monde qui... Puis c'est les rencontres aussi entre les professionnels puis ceux qui commencent. On a eu beaucoup de monde qui font leur première expo à vie, première résidence à vie, qui d'habitude... Cette année, on a Pierre-Étienne Desgagnés qui fait sa première exposition. Lui, il gosse d'électronique d'habitude. Et puis là, il a eu le flash de faire une exposition avec. Mais on le prend, c'est sûr, là, tu sais, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de CV à avoir, là. C'est une zone pour expérimenter, puis tout le monde est là, puis je veux que les personnes qui exposent depuis longtemps soient avec les personnes qui exposent leur première expo, puis que les deux s'inspirent, se donnent des conseils. Échange.
Puis, tu sais, on dirait que la pratique, ça, tu sais, dans le monde, dans le vaste monde des arts, tout est tellement, tu sais, la multidisciplinarité est quand même au cœur de plusieurs pratiques. Puis, tu sais, le son, là, c'est partout. C'est partout qu'on va, ce qu'on touche, quand on est à l'extérieur, autant qu'on est à l'intérieur, le son fait partie de notre quotidien, en fait. Là. C'est dans tout.
Quand on prend le temps, en fait, c'est définitivement pour ça que un festival des pratiques sonores, ça englobe absolument tout et toutes les disciplines, parce que du son, c'est partout. Là, t'sais. Nous, comme on dit à l'écoute, On peut trouver le bruit du vent, un char qui rentre dans un autre char, quelqu'un qui fait du skate, quelqu'un qui crie ou quelqu'un qui chuchote. Là, on va voir un peu de tout ça. Puis c'est tous des aspects extrêmement intéressants en eux-mêmes ou même de les mélanger. Pourquoi pas, tu sais, ça fait pas mal partie de nos vies. Surtout quand t'es en pleine ville, du bruit, il y en a partout. Après ça, quand tu vas plus loin un peu en forêt, ben là, c'est l'absence de bruit, mais il y en a toujours un peu. Tu peux pas t'enfuir du bruit. Complètement.
Et il y a trois volets au festival. L'écoute, le volet résidence, le volet performance et le volet exposition. J'aimerais qu'on commence avec les résidences. Comment est-ce que ça se passe, en fait? Combien de temps est-ce que les artistes sont là? Explique-nous tout.
Alors, les résidences ont déjà commencé même, là, parce que bon, le festival va commencer bientôt. Là, on a trois artistes en résidence cette année. Des résidences d'au moins 7 jours. Des fois, quand ça donne, on donne un peu plus de jours. On est wild de même. Et puis, les artistes, ils viennent et puis ils créent un projet. Ils recherchent sur une idée, peu importe. Ils sont pas obligés de présenter un projet à la fin. Là, cette année, les trois qu'on a vont finir avec une performance sortie de résidence qui va se dérouler pendant le festival. Donc, ils viennent. Nous, on est avec eux. On regarde qu'est-ce qu'ils veulent créer, on leur donne du temps. En fait, c'est ça une résidence, le but, c'est de donner du temps enfin pour pouvoir créer puis chercher. Cette année, on a Andrew O'Connor qui est là, qui nous arrive de Toronto, notre premier international, si on considère le Canada à l'extérieur, le Québec un pays. et on a Laurence Petitpas et Georges-Alexandre Bussière qui sont là avec le collectif Woohoo. Qui travaille avec des costumes sonores. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air assez explosé, là. Ouais, comme
un peu fucké. Ben, fucké dans le bon sens du terme. Spécial. Et aussi, on a le collectif Vénus à vélo. Super le fun de les recevoir. C'est plus dans le domaine du théâtre, là. Puis c'est fun quand le théâtre recherche le son un
ouais,
peu.
Ouais, puis leur projet, là, le Vacarme des Fleurs, c'est un projet que j'entends, là, des petites brides depuis quand même quelques années, là. Puis ça va être intéressant parce que c'est une installation multidisciplinaire qui allie les arts sonores, les arts littéraires, numériques, visuels, puis ça se veut comme un herbier sonore, en fait. Là, ça pique grandement ma curiosité.
Oui, vraiment. Moi, je les vois un peu en train de se préparer, de s'installer. Ça va être un bonbon pour les yeux, autant que ça va être un bonbon pour les oreilles, en fait. Là, c'est comme un peu... C'est très personnel. Ils veulent faire vivre une expérience. C'est ça qu'ils veulent faire vivre, quelque chose d'intime. Donc.
Et Andrew O'Connor ainsi que Vanessa Vailo et le collectif Woohoo ont chacun leur moment là, de sortie de résidence également.
Ouais, exact. Andrew O'Connor, c'est ce vendredi le 14 août qu'il va faire sa sortie de résidence. Et puis ça vaut vraiment la peine. Andrew, je le vois travailler depuis un bout. Il se fait un projet qui s'appelle Tune In Saint-Roch. C'est la première fois qu'il fait des projets qui s'appellent Tune In. Il travaille un peu en radio. Justement, lui, il y a une radio pirate à Toronto. Et puis, c'est un peu de la radio expérimentale mélangée avec les sons et le narratif, un peu le discours, puis un peu dans l'entrevue. Puis là, il fait sur Saint-Roch. Donc, il est allé dans un village en Alaska, puis dans un village en Espagne, donc je trouve qu'on est plutôt exotique à Saint-Roch, d'avoir la chance d'avoir aussi notre moment Tune-In. Puis il a fait des entrevues avec des commerçants du quartier Saint-Roch, du monde qui habite le quartier Saint-Roch, qui habite ses rues, qui habite les appartements, et puis il leur parle un peu de comment ils trouvent le quartier, comment ils trouvent le changement, la gentrification, la place des artistes, puis il va mixer ça en live, dans le fond. En même temps que de recevoir des fréquences d'extérieur, il met des antennes dans la charpente des fauves pour recevoir des fréquences, les mixer en même temps que les dialogues puis des sons. Donc ça risque d'être très intéressant. Puis il parle anglais, Andrew. Puis je lui ai demandé comment tu mixes sans savoir ce que ça veut dire parce qu'il parle pas français. Ouais. Est-ce que tu veux que je te dise ce que ça veut dire? Il dit non, en général, je mixe par le son. Vraiment, souvent, je comprends pas qu'est-ce que le monde dit, parce que j'ai fait un en Espagne, par exemple, et puis je fais juste mixer par rapport au rythme de la voix, de l'engouement qu'il y avait, ou du ton. Puis c'est comme ça qu'il mixe, puis il dit le narratif se crée par la personne qui écoute, en fait. Fait que c'est comme un mélange de créer un narratif volontaire en parlant du quartier, mais en le déconstruisant, puis en essayant de le reconstruire par son aspect sonore. Ça a l'air vraiment intéressant.
Ouais, puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le fait que, ben, tu sais, un peu la barrière de la langue, puis comment, ben, elle a pas d'importance, en fait, la barrière de la langue, parce que par l'intensité, les tonalités de la voix, l'engouement de la voix, ben t'as un dialogue qui se crée, puis il y a une intention qui se crée. Donc c'est, ouais, c'est, ça va être assez flyé.
Mm-hmm. Ouais, on s'entend parler, mais on est comme concentré sur les mots, mais quand t'enlèves les mots, ben il y a une intonation incroyable qui se passe dans une voix. Là.
Et sur la sortie de résidence de Vénus à vélo, c'est le 22 août et la résonance des organes du collectif Wouhou.
C'est le 21 août. Ouais, je le dis tout de suite, allez voir, tu sais, sur notre page Facebook, il y a tous les événements, sur notre site aussi, festivallécoute.com, vous pouvez aller voir ça. Il y a toutes les informations sur la programmation, il y a tous les événements, il y a les descriptions plus en détail des artistes, des images, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Et j'ai envie qu'on parle des soirées de performance maintenant. Il y en aura 3 soirées de performance, ben tous les vendredis en fait, il va y avoir une soirée de performance dans différents lieux de la ville de Québec. Et la soirée de performance, la première, c'est ce vendredi à la Charpente des Fauves.
Oui, exact. Ça commence à 19h ce vendredi. Il y en a un le 14, le 21 et le 28. À août. Avant, c'est parce que les années précédentes, on faisait ça sur 2 jours. C'est la première fois qu'on fait ça sur plus longtemps.
Ouais, c'est ça.
C'était complètement cinglé de faire des résidences, des expositions et des performances en 2 jours, vendredi, samedi. Fait qu'on a gardé l'idée des vendredis de performance et puis on en fait un peu étalé sur tout le mois d'août. Ce vendredi, c'est à la Charpente des Fauves. Le 21, c'est à la Galerie des arts visuels, à la Fabrique, c'est le pavillon des arts de l'Université Laval, qui est au centre-ville. Et puis, on retourne à la Charpente pour le dernier vendredi, un peu soirée de fermeture, plus intense un peu.
Puis comment est-ce que... Parce que là, on a, dans chaque soirée, c'est des artistes différents qui ont des pratiques différentes. Comment est-ce qu'artistiquement, vous avez... former justement les différentes personnes qui se rencontrent lors de ces performances-là. Ça ressemble à quoi une performance signée l'écoute?
C'est bon parce qu'il y a tellement des trucs différents complètement. Ça change beaucoup. Tu sais, on essaie de les diviser. Par exemple, notre dernière soirée, on essaie de la garder celle-là qui vient plus t'écorcher les oreilles, là, celle-là qui vient te vibrer à l'intérieur de toi. En fait, là, c'est plus notre soirée un peu plus intense. Soirée d'ouverture, on fait la plus grande diversité de types de projets. C'est un peu un amuse-bouche, un amuse-gueule.
Un amuse-oreille.
Un amuse-oreille. Faut que j'arrête de parler de bouche, un festival de son. Un amuse-oreille. Pour le festival, et puis la soirée du 21, c'est plus des projets qui vont en douceur, plus dans l'art performatif, surtout. Mais par exemple, la soirée de ce vendredi, vous allez trouver Andrew qu'on vient de parler. Ça l'ouvre avec une performance très humoristique au début, avec des objets de la vie du quotidien, des cassettes qu'on fait jouer avec notre voix du sonore. Ça va être très très bon, très drôle. On a de l'improvisation musicale, mais improvisée à 100%. C'est quelqu'un qui a demandé à 2 personnes d'enregistrer sur des cassettes. Il a aucune idée c'est quoi qu'il y a dessus. Il est fait jouer en même temps que jouer de la guitare par-dessus. Fait que c'est vraiment genre étagé d'improvisation. On a tout. On a aussi quelque chose qui est plus acoustique si on veut. Donc c'est vraiment avec les baies, on va les objets, les roches, on va avec une grosse quantité. Ça risque d'être quand même impressionnant et de faire beaucoup de dégâts de baies, là. J'ai hâte de voir ça. Ça aussi, ça parle beaucoup d'intimité, mais donc on a un peu de tout, là. T'sais, on a le performatif plus humoristique, on a vraiment le mixage techno-audio, on a des trucs acoustiques.
Et toutes les soirées toutes les activités de l'écoute sont ben. Sauf certaines activités partenaires là, sont gratuites également.
Oui, exactement. On tient vraiment à garder ça gratuit. Honnêtement, c'est important pour nous. Puis ça encourage le monde d'aller voir les pratiques, d'y aller à tous les soirs s'ils veulent y aller. Donc vraiment, tu sais, nous, c'est basé sur un peu une contribution volontaire, si tu veux, comme la plupart des places. Là. Surtout à la Charpente des Fauves, ils sont tellement généreux avec les espaces qu'ils nous donnent. Franchement, cet argent-là, elle va à la Charpente pour qu'ils puissent continuer leur projet puis continuer à nous recevoir. Donc c'est toujours des trucs pas de pression. T'arrives... Tu bipes ce que tu veux biper en argent habituellement à la Charpente. Sinon, il n'y a pas de stress. Le but, c'est vraiment que vous ayez voir qu'est-ce qui se passe, puis que la culture, il y ait des personnes qui soient là pour l'écouter.
Définitivement. Et il y a aussi une expo, ben, un volet exposition.
Oui, c'est vrai, prochain volet. On est en volet, hein, c'est vrai.
C'est ça, là,
j'ai sauté avant toi.
Donc, volet exposition, il y a trois expositions, dont une qui est commune, qui est double. Commençons peut-être avec Écho, sonorité du vivant de Victor Drouin-Trempe.
Oui. Dans le fond, Victor Drouin-Trempe, il est dans la Galerie des arts visuels à la Fabrique de l'Université Laval. Et puis, c'est vraiment une œuvre multidisciplinaire sonore. On va un peu rendre électronique et robotique un peu les sons de la nature ou de qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt autour de nous, là. Donc, on est vraiment accompagné du vent, de la présence de l'humain, les insectes, les oiseaux. Il y a comme une machine que tu pèses sur un piton puis qui génère un bruit aléatoire d'un oiseau et un nom aléatoire aussi, généré automatiquement dans une banque de données qu'il a faite. Il y a des sons qui sont créés par ton corps avec l'humidité de ton propre corps, ta respiration, puis tu peux mettre des écouteurs et écouter comme qu'est-ce qui est généré comme son avec ta présence, comme être vivant. Des petits ventilateurs qui sont suspendus au plafond et que tu peux activer, tu peux souffler dessus, ça fait bouger la présence de ton corps. Donc on est vraiment dans les éléments, c'est du multidisciplinaire, dans les éléments les plus naturels, mais un peu vu de manière futuristique si on veut, là.
Et c'est présenté du 15 au 20 août et après, ça sera l'exposition double. Il y aura Drap de Gab Paquette ainsi que Ma Radio de Pierre-Étienne Desgagnés avec la participation de Jeffrey Fortin.
Ouais, ça c'est à la Charpente des Fauves, donc on va être rendu là pour les expositions. Et puis les deux, c'est leur première exposition. Puis pour les premières expositions, c'est vraiment surprenant. Pour vrai, la plupart du temps, il y a du monde qui te parle de des projets, qui te présente des trucs, mais qui ont jamais fait d'exposition nécessairement, mais qui ont des projets incroyables. C'est pour ça que je suis content de comme pouvoir entendre ce que les gens disent et puis donner une plateforme pour produire ces projets-là.
100%, ouais, parce qu'après, c'est... on se rend pas compte de l'impact que ça a après sur la vie de l'artiste aussi. Là. C'est juste ça que ça prend quelqu'un ou un organisme ou qui donne ta première chance puis qu'après, ben, ça peut te propulser puis te donner d'autres opportunités, là, justement.
Ben, définitivement, pour revenir sur le sujet de... Il faut se diffuser ou diffuser des projets que tu crois à cœur. Un peu s'éloigner aussi de... Quand t'es artiste, t'as pas le choix de faire des dossiers à n'en plus finir. Ouais. C'est vraiment un devoir écrire et expliquer, mais... Tu sais, quand tu vois quelqu'un puis un projet que t'aimes puis que tu t'impliques dans un milieu, c'est facile puis c'est plus facile aussi, mais je vous encourage, vous avez une idée, faites juste le faire, là. Donc, on a Pierre-Étienne puis Gab Paquette qui font leur première exposition et c'est vraiment bon. Gab Paquette, dans le fond, on a un drap devant nous et puis on demande d'interagir avec. Il y a un capteur de l'autre côté un peu comme les Kinect. Merci au Xbox d'avoir fait les Kinect. Là, c'est vraiment utilisé dans le monde de l'art maintenant. Qui va voir notre corps, nos mains qui interagissent avec le drap de l'autre côté, avec les ondes qui sont créées, puis qui va générer vraiment un beau paysage de sons intriguants à travers ça. Puis ça va vraiment comme habiter l'espace et la pièce. Là, ça fait que ça fait vraiment comme un peu intime et intriguant d'avoir ce drap-là seul dans cette grande pièce-là. Puis le son qui va remplir tout l'espace, ça va être très bon, je pense. Il est très bon d'avoir programmé ça de lui-même dans son propre temps. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça.
Et donc, tout ça sera présenté du 24 au 29 août à la Charpente des Fauves. Il y a également certaines activités partenaires qui font partie de la programmation également de l'écoute.
Ouais, on a en fait déjà demain soir, c'est comme un pré ouverture un peu là. C'est Rémi Bélanger de Beauport avec Lémic qui nous fait un peu une soirée où on mixe de ses connaissances, de ses artistes et des nôtres pour faire une soirée d'improvisation complète sonore. Apportez ce que vous voulez puis faites du son avec. Donc on va aller explorer puis un peu se rencontrer un peu là-dedans parce que c'est le festival Rencontre l'écoute. Et puis on a une autre soirée avec eux le 18 qui je leur ai dit juste pirater nos ondes, tu sais, pirater genre un peu de pour utiliser le son là. Ils vont venir nous présenter des artistes que eux ils sont souvent écrits pour des artistes qui passent là.
Ouais ouais, des artistes ben ils ont un super réseau à l'international.
Oui, exactement.
Des artistes qui sont de passage à Québec ou quoi
là,
que ce soit.
Là, c'est son nom, sa famille m'échappe là. La personne qui vient c'est Sandy. Je sais. Parce qu'il y a beaucoup de choses en programmation, c'est là de se rappeler de tout. Qui vient de New York puis qui va nous qui va faire un peu une expérimentation sonore. Là, j'ai pu voir un peu qu'est-ce qu'elle faisait. Elle est très active sur les réseaux là. Puis je pense que ça va être une chance unique de pouvoir voir une artiste comme ça un peu à l'international. Donc le 18 au soir à la Chapande des Faux aussi, on va avoir ça. On a Azilis pour de Serre qui fait un peu une séance d'écoute sur ça s'appelle Criper la radio. Elle fait donc elle a fait des recherches sur la présence des voix handicapées à la radio. La place que ça prend un peu, c'est quoi le narratif qui des fois est créé dans l'univers un peu la connaissance générale, mm-hmm. Tu sais quand tu vois des films ou qu'est-ce que t'entends en général, puis c'est de déconstruire ça. Donc c'est un mélange de séances d'écoute un peu comme un balado mélangé avec de la voix va intervenir puis des périodes de questions aussi. Donc c'est un peu d'écouter ces opinions là, d'écouter ces personnes là. Puis de faire une séance ensemble où on écoute.
Puis il y a aussi le projet Pétunia, mm-hmm. Qui va être présenté à l'Ampli de Québec, qui est un concert de socio-financement. Puis c'est une Pétunia qui est une maison de disques / cassettes de la ville de Québec qui sont axés justement sur la diffusion puis le rayonnement de la musique expérimentale en tout genre.
Ben c'est définitivement ça. Là. C'est si vous voulez encourager cette scène-là à Québec, là, des affaires qui partent puis qui sont des projets uniques, là, c'est vraiment d'encourager Pétunia. Ils font un concert de financement. Ça va être à l'Ampli de Québec. Ça, c'est il y a une billetterie. C'est un peu donner y a des paliers de prix. Donner ce que vous pouvez. Puis d'être là, c'est déjà un bon projet. De consommer sur place, de peut-être acheter des produits qu'ils vont faire. Puis c'est pour produire déjà une première cassette. Ils veulent produire uniquement en cassette. Déjà, c'est pas pire. Donc, ça fait des beaux objets à garder.
Ouais, puis c'est important, justement, tu sais, la musique. Tu sais, on a quand même un super beau réseau de musique expérimentale mm-hmm. à Québec, justement. Donc, d'avoir... des gens qui se mobilisent pour s'assurer de la diffusion, justement, là, puis de la production là, de ce genre de musique-là qui est super vaste,
ben
c'est
oui.
vraiment cool.
Les sortir de l'ombre un
ouais,
peu
c'est
aussi,
ça, 100%.
Que ça devienne populaire, ben pas populaire dans le sens où comme accessible, en fait.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est important. Donc, on va avoir des performances dans cette soirée-là d'artistes un peu de la ville de Québec bien connus. Donc, je voulais vraiment d'aller visiter ça.
Et qu'est-ce que tu dirais qui, outre l'écoute, qu'est-ce qui unit? Y a-tu une ligne directrice que vous êtes donnée au niveau artistique qui unit peut-être tous les artistes que vous avez rassemblés pour cette troisième édition de l'écoute?
Moi, j'aime ça dire que... Ben en fait, oui, je dirais qu'il y en a une parce que, veut pas, les personnes qui sont dans le projet, mettons, nous, avec Delphi et Emmanuel, on fait le projet, ça va... Les personnes qui y participent, ça va paraître qu'ils vont être dans nos intérêts d'être du monde nice, qui veulent juste expérimenter des trucs, qui veulent pas se prendre au sérieux non plus, tu sais. Vous allez pas là pour voir 100% des projets très sérieux, attention, et blablabla, tu sais. On expérimente, on fait du bruit, on a du fun, on essaie des nouvelles affaires. On veut déranger, être un peu à côté de la plaque ou être dessus complètement, tu sais. Puis on a vraiment un mélange de tout ça. Puis c'est une scène ou une vitrine qu'on veut offrir pour tous les médiums puis tous les types de professionnalisation. Donc, en général, je trouve que je me dis tout le temps, c'est fou. On reçoit toujours du monde vraiment, vraiment le fun. Vraiment des projets de personnes gentilles qui veulent essayer des trucs intéressants, le fun à parler avec. Donc, c'est le genre d'affaire que tu peux y aller puis parler avec tout le monde. Tu sais, c'est vraiment, on veut garder ça. C'est important pour nous que l'écoute, ça reste un projet qui est proche de sa communauté, proche qui répond à un besoin d'une communauté en art ou de diffusion. Donc, on veut garder ça simple, on veut garder ça le fun et sans prétention. C'est important, je pense.
Et pour le public qui n'ont jamais eu l'occasion encore d'aller à une des précédentes éditions de l'écoute puis qui sont pas nécessairement familiers avec les pratiques sonores, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre d'assister à une ou plusieurs activités de cette troisième édition de l'écoute?
C'est du fun garanti, c'est gratuit, puis sur la panoplie de types de choses que vous allez voir dans une soirée, c'est sûr que vous allez aimer au moins un projet. En fait, j'ai une amie très proche de moi qui dit qu'elle est requin de l'art, qu'elle dit que la plupart du temps, quand elle va voir des trucs, elle haït ça. Je pense qu'elle n'est pas dans le domaine des arts nécessairement, mais elle est très intéressée, puis elle y va. Puis l'Écosse, c'est pas mal un des seuls festivals d'art auquel elle assiste.
Ah ouais, hein?
Elle dit c'est les seuls que ça j'aime, que je trouve des projets que j'aime, des choses que j'aime, des sons qui m'intéressent, parce que c'est accessible, t'es pas obligé d'aller creuser extrêmement pour savoir, pour comprendre le projet.
Ouais, ouais.
Tu vas l'apprécier, ça va te vibrer à l'intérieur de toi ou non. Puis la plupart du temps, oui, mais ça se peut que non, puis ça, c'est pas grave. Tu vas tout en voir dans une soirée, tu peux pas tout aimer, mais c'est accessible. C'est sûr que vous allez aimer au moins une affaire.
Merci grandement à toi, Thomas. Je vous souhaite une merveilleuse troisième édition.
Merci.
De l'écoute qui commence demain.
Et
qui,
non, c'est, ouais, demain, c'est vrai, techniquement, demain.
Le pré-lancement,
j'oublie. Ça compte. C'est du 14 au 29. Les expositions finissent le 29, puis on commence le 14.
Incroyable. Merci à toi. Et ben, pour avoir toutes les informations sur les expositions, les sorties de résidence, et les performances également, ben, je vous invite à aller, à vous suivre sur les réseaux sociaux.
Ouais, on met vraiment tout là-dessus. À partir de là, vous pouvez aller sur le site Internet. Il y a beaucoup de détails aussi. Tout va être là.
Fait que l'écoute, that's it. Puis vous avez
that's it.
Merci. Merci à toi.
Merci à toi.
On va maintenant aller en courte pause publicitaire, mais au retour, on va parler avec l'artiste G1 Larouche pour parler de sa prochaine exposition qui a lieu à Québec, plus précisément à l'espace Parenthèse qui est situé à l'intérieur du Cégep Sainte-Foy. G1 Larouche présentera Affleurement qui sera présenté du 20 août au 10 septembre 2026. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoute locale, écoute Chiz 94.3.
Cet été, Punkorama passe en mode légèreté. Des nouveautés, des classiques, la scène locale, on file festif, on file festival. Avant, une semaine sur deux était dédiée à la scène féminine. Mais cet été, place à une scène mixte. Tous les vendredis, à 11h, manque pas ça sur les ondes de Chiz 94.3.
L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Cible au coin extérieur, le tir.
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Un monde de couleurs et de sons est une invitation à découvrir l'univers fascinant de la musique iranienne. À chaque deux semaines, Ali Rangchian présente des œuvres et des artistes qui reflètent la diversité culturelle et musicale de l'Iran. Un rendez-vous musical pour voyager à travers les sons et les histoires d'une grande tradition musicale. Un samedi sur deux, à midi, sur les ondes de Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour poursuivre l'émission d'aujourd'hui, j'ai avec moi l'artiste G1 Larouche. Bonjour, bonjour!
Allô, ça va bien?
Ça va super bien. Très heureuse de te retrouver cette fois-ci à l'autre bout du fil pour parler d'une prochaine exposition solo qui débute ce jeudi. Ça va avoir lieu du 20 août au 10 septembre 2026 à l'espace Parenthèse où tu présenteras l'exposition Affleurement.
Yes.
Alors, Jiwan, tu es un artiste en métier d'art, tu es issu du monde de la marionnette et du théâtre, mais tu mélanges dans ta pratique la sculpture, le textile et la relation entre le vivant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta démarche artistique dans cette nouvelle exposition?
Oui, ben en fait, c'est une exposition que j'ai présentée en Abitibi déjà cette année, au printemps. Puis là, j'ai eu un appel de l'espace Parenthèse pour présenter cette exposition-là à nouveau. Donc, dans mon expo, il y a des fleurs géantes de 6 pieds de haut avec des visages humains de moulés qui sont intégrés à des structures de métal. Il y a du textile, il y a des montagnes que j'ai faites à partir de mains moulées ensemble dans le Kamouraska. Fait que c'est des montagnes qu'on retrouve sur le bord de la Vin quand on est dans le coin du Kamouraska, là, les Kabourons. Fait qu'il y a comme une espèce de dynamique qui est installée entre les fleurs et les montagnes, les grandes fleurs et les petites montagnes. Il y a aussi une souche avec des mains moulées aussi peinées. Donc, c'est comme un peu des éléments de ma production des 4 dernières années, on va dire. Il y a comme une centaine d'étoiles en métal qui sont suspendues dans le ciel. Fait que ça ajoute vraiment une dimension à l'installation. C'est peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu certaines des pièces dans mes dernières expositions. Mais aussi, c'est ça, j'ai comme 3 expositions en même temps cet automne. Donc, il y a celle-là qui commence ce jeudi. Puis ensuite, il va y avoir la vitrine de matériel à partir du 5 septembre. Puis ensuite, un duo avec Christelle Tremblay à l'espace culturel de Saint-Nicolas à partir de la mi-septembre. En tout cas, sur mon site web, il y a tous les détails, jiwanarouche.com. Mais sinon, affleurement, c'est vraiment comme une espèce de... Mais affleurement, ce que ça veut dire, c'est un mot qui est utilisé, entre autres, en Abitibi, pour parler des gisements géologiques. Là. Fait que c'est comme des choses précieuses qui sortent du sol. Mm-hmm. Mais aussi, ça faisait vraiment écho, ce mot-là, avec le fait que c'est des fleurs que je présente, mais aussi qu'il y a plein de mains qui sont en relation les unes avec les autres. Fait que l'espèce d'effet d'effleurement, c'est comme cette sensibilité-là que j'avais envie. Fait que chaque fleur est composée du visage, fait qu'on peut s'y reconnaître. Il y a plein de techniques aussi qui sont utilisées, là, comme tu disais, là, je proviens du monde de la marionnette, puis du théâtre, puis de la sculpture, puis je mélange un peu tout ça, mais vraiment, chaque fleur a comme des techniques différentes qui sont utilisées pour soit l'assemblage ou pour l'ornementation. Fait que c'est pas mal ça.
Et justement, tu sais, dans ta pratique, aller à la rencontre du vivant, ça fait vraiment partie intégrale de ta démarche. Puis je oui. pouvais lire que, justement, les mains qui ont été moulées, c'est en fait les mains d'aînés que tu es allé rencontrer à Wendake. Est-ce que j'aimerais oui. ça que t'entendre sur ces rencontres, puis comment est-ce que ces mains ont été moulées, dans quel contexte?
Oui, bien en fait, c'est ça, en 2022, ça faisait 2 ans environ que je donnais des cours de peinture à des aînés de Wendake. Puis, en fait, là, les mains dont on parle, c'est celles-là qui sont après la souche d'arbres. Pas celles-là des montagnes, c'est comme d'autres types de médiation. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment en lien avec ces rencontres-là que j'ai décidé de faire une sculpture pour leur rendre hommage, parce que tout leur partage, toute leur sagesse, je trouvais que ça devait faire du sens. Puis aussi de pouvoir s'inspirer de notre lien qu'on a créé à travers ces ateliers-là. Donc, j'avais comme organisé des ateliers de moulage avec les aînés où est-ce qu'on moulait leurs mains. Et ensuite, je prenais leurs mains, puis le moulage, en fait, puis je les ai moulés dans mon atelier. Puis je les ai reproduits pour ensuite les greffer à une structure en métal, puis tout faire ma magie que je fais là, avec le tissu, avec la peinture, avec des perles. Il y a comme des animaux aussi de rajouter. Il y a des chiens, il y a des oiseaux. Et dans l'installation en ce moment de l'espace Parenthèse, il y a même des chats puis un chien.
Wow!
Il y a comme beaucoup de choses. Il y avait comme une vitrine, puis j'étais comme, OK, je vais essayer de de tirer profit de cet espace-là là, pour attirer les gens vers la bibliothèque. Mais en tout cas, hier, quand je faisais mon installation, les gens étaient quand même vraiment impressionnés. Là. Comme, en tout cas, moi, des fois, j'ai l'impression d'être un peu blasée parce que je suis habituée de voir mon travail. Pour moi, c'est comme rendu rien. Mais comme c'est vrai que je me dis qu'il y a des gens qui l'ont pas vu encore. Fait que je trouve ça cool. Je pense que j'ai trop le nez collé sur ce que je fais. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment fun ça me fait plaisir de rencontrer les gens au vernissage. Puis ça va me faire plaisir aussi d'entendre qu'est-ce que les gens voient dans ce que je présente.
Ouais, pour les gens qui ont jamais vu ton travail, Jiwan, tu sais, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de minutie et de petits détails là, qu'il faut prendre le temps là, d'observer quand on voit c'est tes œuvres. Puis ben justement, si tu parles de l'art à la rencontre, j'ai l'impression que justement, tu fais beaucoup de médiation culturelle et ouais. Tout ça. Comment est-ce que justement la médiation culturelle impacte ton travail en tant qu'artiste?
Ben je trouve ça tellement important parce que les gens en général m'inspirent. Puis tu sais, t'as même des gens qui pensent qu'ils sont pas inspirants ou qui ont pas de talent, des choses comme ça. Puis, ben moi, je trouve que ça fait partie vraiment de ma démarche d'inclure les gens, d'être inclusif, soit dans ben, ma façon d'être, ma façon de parler, mais aussi dans mes œuvres, que les gens puissent participer puis se retrouver. Tu sais, c'est comme un sentiment d'appartenance d'avoir vécu ça collectivement, mais aussi le fait de se reconnaître dans une œuvre, tu sais, comme mettons mon arche qui est rendue à Baie-Saint-Paul, il y a comme une cinquantaine de personnes qui ont participé, fait que tous les gens qui vont la voir après sont comme hey, j'ai ma main qui était là, j'ai ma main qui est là, fait que tu sais comme ils se reconnaissent là-dedans, fait que le fait de pouvoir se reconnaître dans ce que je fais, je trouve ça vraiment important.
Et donc ta prochaine exposition est présentée à Québec, plus précisément à l'espace Parenthèse du 10 septembre du 20 au 10 septembre 2026.
Yes. C'est eux qui savent pas, là, l'espace Parenthèse, c'est vraiment la galerie qui est dans le cégep Sainte-Foy. Fait que tu sais, comme tu peux rentrer, d'ailleurs, le stationnement est gratuit à partir de 18h, mais puis il va y avoir du vin et des grignotines aussi gratuitement sur place lors du vernissage. Mais c'est vraiment comme quand tu rentres par l'entrée principale du cégep, c'est comme vraiment dans la grande pièce qui est en rentrant pour la bibliothèque. Fait que c'est ça. Fait que l'espace Parenthèse, c'est au cégep Sainte-Foy.
Alors pour tous les étudiants et étudiantes du cégep Sainte-Foy ou les gens qui travaillent auront l'occasion de la côtoyer presque quotidiennement, sont vraiment très chanceuses.
Oui.
Mais même si vous n'êtes pas étudiant, étudiante ou travailleur et travailleuse au cégep Sainte-Foy, ben vous pouvez y avoir accès et aller visiter l'exposition.
Elle est déjà visible, elle est déjà accessible. J'ai terminé mon montage hier.
Ah! Alors peut-être si vous êtes par là dans les prochains temps et ce jusqu'au 10 septembre, ben on vous invite à aller la voir. Puis est-ce que tu veux nous parler? Tu disais que t'avais deux autres expositions à venir aussi cet automne. Ouais, c'est trop cool. Est-ce que tu peux?
Oui, puis en plus ils sont tous dans le coin de Québec. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai la vitrine du Centre Materia dont je fais le montage lundi prochain, mais le vernissage c'est le 5 septembre. Puis le Centre Materia, c'est vraiment en dessous de la Maison des métiers d'art, fait que c'est coin de Charest, Dorchester, dans Saint-Roch. Puis là, la vitrine, elle va être visible jour et nuit, là, fait que ça va être cool. Fait que c'est tout l'automne jusqu'en décembre, genre.
Ça, c'est visible de l'extérieur.
De l'extérieur, exact. Ouais. C'est toute la vitrine qui est vraiment sur le coin, mais sur Charest.
Ouais.
Mais, fait que ça. Puis ensuite, c'est ça, il va y avoir l'espace culturel de Saint-Nicolas. En duo avec Christelle Tremblay à partir de mi-septembre.
Puis est-ce que le duo, vous avez fait des... Est-ce que c'est comme vraiment une exposition collaborative? Est-ce que vos univers se rencontrent dans cette exposition-là?
Bien, nos univers se rencontrent, c'est en termes de matière et de technique, mais pas pour... Mais moi, Christelle et moi, on n'a pas fait des choses ensemble pour cette exposition-là. Là, on a comme des pièces différentes, puis il y a comme une espèce de... Il y a un lien aussi entre nos deux... en nos deux pratiques, mais on n'a pas fait d'œuvre ensemble pour cette expo-là.
Puis justement, ces trois lieux-là dont tu feras, dont tes œuvres seront exposées cet automne, ben ils sont tous assez différents. Comment est-ce que les lieux t'inspirent dans la mise en place et le choix des œuvres que tu présentes lors de tes expositions?
Ben, c'est sûr qu'à l'espace parenthèse, vu que c'était une expo que j'avais déjà faite, mais dont la salle est vraiment, vraiment différente de ce que j'avais présenté, j'ai vraiment changé la distribution des éléments. Puis j'en ai rajouté d'autres aussi qui appartenaient à d'autres productions de d'autres expos passées, mais je trouve ça le fun de retransformer des personnages ou des éléments et de les remettre en scène différemment. Fait qu'il y a ça. Ensuite, ben, la vitrine, j'ai fait carrément une nouvelle production. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu. Là, j'ai travaillé là-dessus tout l'été puis j'ai pas fini encore. Je vais finir cette semaine. C'est rare que je termine en minute, mais là, quand on a beaucoup de travail comme ça, on n'a pas le choix.
Est-ce que ça se pourrait que tu en aies déjà posté un petit peu sur tes réseaux sociaux, là, des petits sneak peeks?
Il y a des petits détails de patente de ce que je fais. Là, j'ai fait des moulages en acier aussi cet été. Il y a comme plein d'éléments qui ont été comme... C'est ça, qui ont été faites cet été. Là, fait que oui, dans mes stories, des fois, il y a des affaires qui se retournent. C'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui va être où. Parce qu'à l'espace culturel de Saint-Nicolas, on est plus dans un... C'est comme plus une maison patrimoniale, vraiment nice. Mais ça, je reprends d'autres éléments de d'autres expos aussi. J'ai des nouveaux éléments. Je crée une des nouvelles choses. Il y a une de mes installations que je ne sais même pas encore tout à fait qu'est-ce que je vais faire. Mais là, dès que je finis ce rush-là, je me mets dans l'autre prod. C'est comme un automne assez chargé. Mais je pense que ça va être plaisant de découvrir. Là. Surtout qu'à l'espace culturel de Saint-Nicolas, j'ai comme décidé de présenter aussi le processus. Fait que, tu sais, comme des moules, des essais-erreurs, des maquettes, des photos du processus aussi. Je trouve que c'était pas assez documenté de juste voir le final. Là. Fait que, en tout cas, je vais essayer de j'espère que ça va être intéressant, mais j'imagine
ouais,
que oui.
Ben pour avoir parlé à plusieurs personnes qui adorent justement les arts visuels, les expositions, c'est quelque chose qui est quand même très apprécié là, de voir. Les gens ont souvent des questions justement sur la démarche des artistes, des artistes visuels, des artistes en métier d'art, etc. Donc, d'incorporer justement tout le processus, les moulages, etc. Mm-hmm. Et un peu l'arrière-scène là, de ton travail.
C'est quelque chose qu'on voit souvent. J'aurais aimé ça pouvoir mettre des vidéos, mais ils n'ont comme pas de télé ou de truc qui est fait pour la projection, en tout cas. Peut-être qu'il y aura des codes QR avec des liens vers de la poésie aussi, qui sait?
Ouh! En tout cas, c'est plein de belles choses que j'ai très hâte de découvrir cet automne et je suis très heureuse de savoir que ton travail va se retrouver un peu partout dans la ville de Québec et sur la rive sud également. Si on veut avoir toutes les informations, Jiwan, sur ton travail, tes expositions à venir et peut-être même les médiations qui ont peut-être lieu dans le futur, où est-ce qu'on te suit?
Je suis quand même présent sur Instagram, Jiwan Kenobi, J-I-W-A-N-K-E-N-O-B-I. Sur mon site web, jiwanlarouche.com. Puis c'est pas mal ça. Là. Sinon, je suis facilement googlable, mais sur mon site web, toutes les infos des expos qui s'en viennent sont dans le bas complètement à chaque page.
Merci grandement, Jiwan. Puis je vous rappelle que le vernissage de Affleurement a lieu ce jeudi de 17h30 à 20h30 à l'espace Parenthèse, qui se retrouve directement à l'Université, pas à l'Université Laval, pardon, au Cégep Sainte-Foy. Au Cégep Sainte-Foy. Et l'exposition est présentée du 20 août au 10 septembre 2026. Yes. Merci grandement, Jiwan.
Hey, merci à toi, merci beaucoup.
Je sais pas ce que vous faisiez hier, vous, chers auditeurs, auditrices, mais c'était la première journée des super franco-fêtes qui ont lieu depuis hier dans la ville de Québec. La 5e édition des super franco-fêtes se passe du 17 au 25 août 2026 avec plein de spectacles d'envergure et grandioses. Et justement, hier, c'était l'ouverture des super franco-fêtes à l'Agora du Vieux-Port. Il y avait un grand spectacle qui a regroupé plein d'artistes de la francophonie. Et l'une d'entre elles était l'une autre que Lisa Leblanc, qui a justement sorti un nouveau single pendant l'été. Ça s'appelle Wall Lotta Talking. C'est pas mal ce que je fais, moi, quand j'anime, chérie, j'arrive. On va écouter ça ensemble. Wall Lotta Talking de Lisa Leblanc. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3. We'll be right back. C'était Whole Lotta Talking de Lisa Leblanc. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3. Une artiste qui a sorti un nouvel album qui était très attendu, c'est Phoebe Bridgers, qui nous revient avec l'album Lost Weekend, qui est paru vendredi dernier, le 14 août. Si vous ne connaissez pas Phoebe Bridgers, c'est une artiste indie folk qui est établie en Californie. Et on va aller écouter la chanson Kill Me, tirée de son tout récent album Lost Weekend. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Thank you.
C'était Kill Me, un nouveau titre de l'artiste Phoebe Bridgers. Tu dois sortir de son nouvel album Lost Weekend qui est paru le week-end dernier. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et on va revenir dans la scène locale, oui, avec le nouveau projet solo de Simon Choquette qui s'appelle Effet. Simon Choquette, vous le connaissez entre autres dans le projet Bénévole, mais celui-ci nous fait découvrir une autre facette de lui avec son nouveau projet. Et on va écouter le premier single de Effet qui s'appelle Show Me. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. You show me what love is all about, and I will show you how to lose it. You show me what is wrong. I will show you how to hold it. Seems like a fair trade, considering we're too proud to figure it out on our own. I can't give you more than the sum of the things I am, and I'm just a lifetime of trouble. Show me. Effet, vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Nous allons maintenant aller en cours de pause publicitaire, mais au retour, on aura l'occasion de parler littérature avec votre chroniqueur, Alex Tremblay-Lamarche. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous présente le deuxième service du Réchaud tous les samedis et dimanches dès 11h. Le deuxième service, c'est l'actualité de la semaine commentée à ma manière, que ce soit en politique ou en critique de film à l'affiche. Je vous présente tout ce qui a retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous sur mon Réchaud. La saison 8 du deuxième service du Réchaud, c'est les samedis et dimanches dès 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du rock Ampisson a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ampisson.com.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allié? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois, du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales, ils sont tout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Alors, pour terminer notre émission d'aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver en studio Alex Tremblay-Lamanche. Bonjour!
Bonjour, Noémie.
Alors, pour une nouvelle chronique littéraire, aujourd'hui, tu nous apportes en Nouvelle-France.
Oui, c'était les fêtes de la Nouvelle-France. Il y a quelques semaines, l'ensemble de la ville de Québec s'est mis un petit peu au temps de la Nouvelle-France. Il y a eu tout plein d'activités au centre-ville qui étaient fort intéressantes. Et donc, j'ai réuni 4 ouvrages pour ceux qui voudraient prolonger un petit peu ce voyage dans le temps au 16e et 17e siècle, puis au 18e aussi.
Alors, tu nous apportes avec La convoitise des puissances de l'Europe aux Amériques de Nicole Dorion-Poussard aux éditions Gide.
Oui, donc, à la fin du 15e siècle, il y a une volonté de la part des puissances européennes de s'extensionner vers le Nouveau Monde, de découvrir des nouveaux territoires, de découvrir aussi un passage qui permettrait d'aller vers l'Ouest pour être capable de rejoindre l'Inde, d'aller chercher les épices plus facilement que, bon, en faisant le tour par le bas de l'Afrique. Et, ben, il va y avoir plusieurs puissances européennes qui vont s'affronter. En Amérique du Sud, il va y avoir le Portugal, l'Espagne. Et en Amérique du Nord, ben, il va y avoir la France et l'Angleterre. Et ce dont Nicole Dorion-Poussard nous parle, c'est vraiment de cet appétit pour le Nouveau Monde qu'ont la France et l'Angleterre à cette époque et les aventures coloniales qu'ils vont avoir au Nouveau Monde.
Alors, quelles sont les différentes aventures, justement, que nous relate l'autrice dans cet ouvrage?
Bien, ce qu'elle nous relate, je dirais, c'est pas tant des aventures plus précises, c'est plus effectivement la façon de penser de ces métropoles-là. Donc, il y a, par convoitise, ce qu'on veut dire, c'est que, bon, il y a un appétit pour les ressources naturelles, pour des terres, pour des possibilités commerciales, des positions stratégiques. Et, bien, là, effectivement, bien, ça vient que petit à petit, ça va amener un développement en Amérique du Nord. Ça va également amener, bon, plusieurs batailles, la prise de Louisbourg par les Anglais, bon, tout ce qui se passe aussi du côté de l'Acadie, où là, ben, les Anglais prennent l'Acadie, les Français la reprennent, les Anglais la reprennent, et ainsi de suite. Donc, ces conflits-là dont il nous parle est vraiment effectivement comment des métropoles pensent leur appétit pour le Nouveau Monde.
Et bien, justement, si c'est cette méthode de pensée-là, je suis curieuse de savoir, ben, c'est quoi leur mindset ou leur façon de penser, justement.
Ben, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher des nouveaux territoires, d'aller chercher des nouveaux sujets, d'agrandir. Ben, tu sais, il y a une géopolitique mondiale qui est en train de se mettre avec, bon, les caravelles qui permettent de voyager plus loin, les communications qui s'améliorent à l'époque, même si on est encore au 15e, 16e, 17e siècle. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et, ben, ce qu'elle veut nous montrer au final, c'est que, bon, ben, la chute de Québec, l'histoire de Québec, c'est pas de l'histoire québécoise, c'est pas de l'histoire canadienne, mais c'est de l'histoire internationale. Et bon, à l'époque, c'est une histoire européenne. Elle continue par la suite avec l'appétit des États-Unis pour le territoire. Parce qu'une fois que les États-Unis ont fait leur indépendance, ben, ils sont comme confinés entre les Appalaches et l'Atlantique et ils vont avoir un appétit pour le territoire. Donc, ils deviennent une puissance. Ils vont vouloir aller acheter la Louisiane. Ils vont envoyer des expéditions vers l'ouest, notamment Lewis et Clark, pour prendre possession du territoire à l'ouest, du continent et se rendre jusqu'au Pacifique. Donc, ben, il y a vraiment effectivement tout ça. Je dirais que c'est un ouvrage que j'ai terminé en me disant qu'est-ce que ça apporte en tant que tel? Parce que j'ai l'impression que, ben, au final, c'est ce qu'on dit déjà dans à peu près tous les manuels d'histoire et que, ben,
c'est pas de nouvelle information,
ouais,
vraiment.
Il y a comme pas de nouvelle information. Au contraire, ben, tu sais, toute la question, les travaux plus récents sur la question, bon, du contrôle du territoire par le biais des Autochtones, parce que, bon, ben, les Français à l'époque, eux autres, ils se disent, ben, si je m'allie avec une tribu autochtone, ben, cette tribu-là devient comme un peu un vassal. Donc, elle contrôle le territoire pour moi et donc ça me permet genre d'avoir des prétentions sur un territoire un peu plus large. Donc ce genre de travaux-là sont à peine cités. On parle pas effectivement beaucoup de la perspective autochtone, des alliances autochtones, bon, tout aussi l'aspect un petit peu plus religieux parce qu'il y a une volonté de convertir pour être capable d'occuper le territoire via les autochtones qui maintenant, comme ils sont rendus catholiques, ben, c'est comme si c'était des bons Français.
Mmh. Donc, on prend vraiment ce que, ben, en fonction d'où on est dans le monde,
ouais.
Ben, c'est quoi les pays ou les territoires que les uns et les autres veulent convoiter, puis pourquoi, quelles sont les ressources que ceux-ci convoitent, puis ben, ils ont une instance puis une différence, tout dépend on est où dans le monde, mais ça va pas plus loin que ça.
Fait que c'est ça, c'est fait que, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire un petit peu des débuts de la colonisation, qui souhaite replacer ça dans une perspective métropolitaine, européenne, risque d'y trouver son compte, mais en même temps, j'aurais envie de dire, dans à peu près n'importe quel manuel d'histoire, dans n'importe quelle synthèse sur l'histoire de la Nouvelle-France ou synthèse sur l'histoire du Québec, c'est déjà replacé dans ce contexte-là. Mm. On le voit notamment au cégep, là, c'est plus de l'histoire, bon, de la civilisation occidentale, mais c'est l'histoire bon, mondiale depuis à peu près cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu sais, ça fait déjà plusieurs décennies au final que les gens replacent l'aventure coloniale en Amérique du Nord dans une perspective plus large. Et donc, j'ai l'impression que c'est un ouvrage qui arrive peut-être une vingtaine d'années en retard parce que, ben, c'est ça, il y a 20 ans, ben, on se rendait pas compte à quel point c'était effectivement davantage connecté puis que, bon, ben, l'histoire de la Nouvelle-France, de la Nouvelle-Angleterre, se penser dans une perspective plus large, alors qu'aujourd'hui, ben, dans à peu près tous les manuels d'histoire, dans tous les livres d'histoire, ben, ça va de soi. Et donc, ben, la question que je me suis posée en fermant l'ouvrage, c'est un petit peu, ben, oui, c'est intéressant, oui, les informations qui y sont bien vulgarisées, accessibles, mais qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un manuel d'histoire ou n'importe quel livre sur l'histoire de la Nouvelle-France?
Et pour le deuxième ouvrage du jour, tu nous apportes avec un ouvrage de Youri Akimov, La colonisation de l'Amérique du Nord et de la Sibérie,
ouais.
Une étude comparative.
Ouais, ben ça apporte vraiment quelque chose de plus. Honnêtement, quand j'ai vu le titre passer, j'étais comme, ben voyons,
c'est
la Sibérie.
C'est ça, qu'est-ce que l'Amérique du Nord et la Sibérie ont en commun, en fait, là?
Ben plein de choses. Et ça, je l'ignorais complètement. Moi, pour moi, la Sibérie, c'était, bon, grosso modo, l'endroit où il y avait des goulags au 20e siècle, puis Staline envoyait effectivement ses ennemis politiques. Mais grosso modo, la Sibérie, ben, à l'époque moderne, c'est un endroit qui est beaucoup plus reculé, qui a des ressources qui sont quand même assez intéressantes. Et l'Empire russe a effectivement une convoitise, pour reprendre un petit peu le titre du dernier ouvrage. Et ben, il y a une volonté de s'étendre vers l'Est. Et ben, à la fois pour aller contrôler les territoires et donc avoir davantage de puissance, hein. On le sait, la Russie aujourd'hui, c'est le plus grand pays au monde. Donc, il y a une volonté d'être capable d'affirmer son autorité, d'être capable d'avoir plus de territoires, mais aussi une volonté de contrôler les populations parce qu'il y a des populations autochtones sur ces territoires-là qui ne sont pas russes et qui vont recevoir la visite de colons qui vont venir s'établir pour avoir une revendication sur le territoire. Donc, au final, il y a beaucoup de choses en commun entre l'aventure coloniale en Amérique du Nord et l'aventure russe.
Et Youri Akimov, est-ce que c'est quelqu'un d'originaire de la Sibérie, justement?
Je ne sais pas s'il est originaire de la Sibérie, mais c'est un Russe. Il est professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg et l'ouvrage a originalement été publié en russe. C'est assez rare qu'on ait un ouvrage sur l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, qui a d'abord été publié en russe. Et bon, l'ouvrage est tellement bon qu'il a reçu, il y a quelques années, le prix Pierre Savard du Conseil international des études canadiennes pour le meilleur ouvrage sur le Canada en langue étrangère. Donc, ça a originalement été publié en 2010 en russe. Et Mikhail Poplianski, qui est professeur à l'Université de Regina, si je ne m'abuse, a décidé de traduire l'ouvrage pour le rendre accessible à lectorat francophone. Et honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que je soupçonnais pas à quel point, effectivement, il y avait des correspondances à faire entre la Nouvelle-France, la Sibérie, la Nouvelle-Angleterre, et de voir, effectivement, ce troisième joueur-là qui permet d'éclairer complètement différemment l'histoire de la Nouvelle-France.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, justement, dans les ressemblances que ces deux territoires peuvent avoir en commun à travers l'histoire?
Dans ce qui les ressemble, en fait, c'est que, comme je mentionnais, il y a vraiment une entreprise de colonisation de la Russie vers l'Est. Mm-hmm. Donc, on veut envoyer une population européenne dans ce territoire-là, comme en Nouvelle-Angleterre, comme en Nouvelle-France. On veut aussi, ben, c'est des territoires qui sont peu connus de la métropole, qu'on veut documenter, être capable de cartographier, être capable de mieux connaître, mais pas seulement dans une perspective juste de politique, mais aussi dans une perspective économique pour être capable d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher des ressources. Il y a aussi, dans les deux cas, des conditions qui sont difficiles. L'hiver ici, qui n'est pas aussi froid en Europe, mais ben, la Sibérie, il y a c'est aussi froid, un hiver qui est quand même difficile. Puis, ben, comme c'est ça, une des choses qui m'a surpris, c'est une des raisons pour lesquelles on vient ici, c'est le chapeau de feutre de castor. En Europe, à l'époque, il y a une grosse, grosse mode sur les chapeaux de feutre de castor. Et ben, pour faire des chapeaux de feutre de castor, ça prend des fourrures. Et ici, on en a beaucoup. Et donc, ben, ça va amener la colonisation de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre, mais en Sibérie, il y a aussi de la fourrure. Et donc, il y a effectivement cette volonté d'aller chercher de la fourrure vers l'Est, vers la Sibérie, pour être capable d'alimenter ce marché de la fourrure. Donc, il y a vraiment énormément de ressemblances entre les deux. Par contre, là où il y a des différences, c'est que la Sibérie va davantage rester dans une perspective de comptoir, d'exploitation du territoire. Si on compare la Nouvelle-France avec la Nouvelle-Angleterre, c'est davantage une colonie de peuplement. Donc, il y a vraiment une volonté de recréer une société en Nouvelle-Angleterre. C'est souvent des communautés religieuses, comme, mettons, les Quakers. On veut pas trop les avoir en Angleterre. Pouf, on les envoie en Amérique du Nord. Ils vont fonder la Pennsylvanie. Les Puritains, on les envoie, ben, ils vont fonder le Massachusetts. Les catholiques, on veut pas les avoir en Angleterre. On les envoie ici. Ils fondent le Maryland, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des gens qui arrivent avec femmes, enfants, bétail, et qui décident de reconstruire une société. Donc, ça va faire de la Nouvelle-Angleterre une colonie qui est quand même très, très peuplée avec effectivement beaucoup de monde et rapidement, il va y avoir des villes, ce genre de choses-là. Alors qu'en Nouvelle-France, ben, ce qu'on a, c'est davantage une colonie de comptoir dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est ben, ce qu'on veut, c'est aller chercher la fourrure, aller chercher bon, le poisson, aller chercher éventuellement bon, des métaux, si on est capable d'en trouver, et de ramener ça en France. Et ben pour faire ça, ce que tu as besoin au final, c'est de faire une espèce de petit phare. Puis ben tu laisses les autochtones travailler pour toi parce qu'au final ben c'est eux autres qui savent où est la fourrure. Puis ben tu leur apportes des ressources intéressantes en échange, tu fais des échanges, donc tu as des phares.
Tu n'as pas nécessairement besoin de t'installer là justement.
C'est ça, avoir des femmes, des enfants, avoir des colons, avoir effectivement des villes qui se développent, c'est pas autant nécessaire. Et donc on avait toujours comparé la Nouvelle-France qui avait ce modèle-là qui bon était un petit peu plus du côté colonie de comptoir mais qui finalement de fil en aiguille va devenir un petit peu plus une colonie de peuplement avec des villages le long du Saint-Laurent. Bien, le cas de la Sibérie, on est encore plus colonie de comptoir que la Nouvelle-France. Et donc, au final, bien, on avait comme toujours un peu opposé la Nouvelle-France à la Nouvelle-Angleterre, alors que là, bien, on se rend compte que bien, l'opposé, disons, de la Nouvelle-Angleterre, bien, au final, c'est plus la Sibérie. Puis la Nouvelle-France se trouve à être une espèce de mélange entre les deux où, oui, on va effectivement bon, chercher des ressources, mais où il y a aussi une volonté de peuplement. Donc, ça apporte vraiment effectivement à revoir comment est-ce qu'on développe des colonies à partir d'un autre modèle qu'on a à peu près jamais mis en relation avec la Nouvelle-France, ouais, avec la Nouvelle-Angleterre.
C'est intéressant de voir, ben, comme, tu sais, je veux dire, c'est loin, là, la Sibérie de la Nouvelle-France, de la Nouvelle-Angleterre, fait, ouais. De voir à travers les époques, puis d'un territoire différent à un autre, ben, comment il y a des ressemblances qui ont eu lieu, même si on était à des milliers de kilomètres
ouais, de différence. Au final, ben, t'sais, dans les deux cas, ce qu'ils revendiquent pour dire qu'ils possèdent ce territoire-là, parce que t'sais, bon, la Nouvelle-France, c'est immense, puis la Sibérie aussi, c'est immense. Et bon, le roi de France va dire « ça, tout ça, c'est à moi ». Mais tu sais, concrètement, si tu avais eu les moyens d'arriver avec ta gang à un endroit puis de t'installer là, tu sais, le roi de France n'aurait pas eu les moyens de dire « Hey, écoute, c'est à moi », tu sais. Puis même chose du côté de la Sibérie. Alors que du côté de la Nouvelle-Angleterre, où on a plus de monde, ben là, c'est plus facile effectivement de contrôler les choses. Mais dans les deux cas, ben au final, les arguments pour revendiquer le territoire sont à peu près les mêmes. Ben, il y a d'une part l'occupation, on a du monde dessus, donc c'est à nous. D'autre part, ben on exploite les ressources, donc c'est à nous. Il y a aussi, bon, des des missionnaires du côté de la Sibérie qui visent à convertir aussi les populations locales. Donc, l'idée de, ben là, il y a des gens qui sont rendus catholiques, qui sont rendus orthodoxes, qui sont rendus puritains, etc. Donc, ce territoire-là est à nous. On a intégré ces gens-là au sein de l'Empire. Fait que l'action missionnaire est aussi utilisée là-bas. T'sais, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui est un petit peu plus spécifique aux Amériques, qu'on voit aussi en Amérique du Sud, etc. Mais là, de voir qu'il y a une volonté d'intégrer ces groupes de Sibérie, effectivement, au sein de l'Empire russe, ben, je trouvais ça super intéressant. Puis ça amène vraiment à remettre en... ça amène effectivement de la profondeur à l'analyse qu'on fait sur l'histoire de la Nouvelle-France, en étant capable de comprendre que ben, cette histoire-là de la Nouvelle-France, ben, c'est une histoire coloniale. Et bon, l'épopée coloniale, ça se vit de différentes manières. Puis ben, il y a effectivement d'autres nations que l'Angleterre, la France, qui vont développer des colonies. Ou aussi, on pense souvent à l'Espagne, au Portugal avec leurs colonies en Amérique du Sud, mais on pense pas assez à la Russie qui développe ses colonies du côté de la Sibérie. Donc moi, j'ai vraiment aimé cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui nous permet effectivement de sortir de nos ornières habituelles, qui permet de découvrir un nouvel univers, puis ben, ça ajoute une richesse à la compréhension qu'on se fait de l'histoire de la Nouvelle-France, de la Nouvelle-Angleterre, à la lumière effectivement de l'analyse croisée avec la Sibérie.
Et pour le troisième ouvrage, tu nous présentes La bourgeoisie marchande en milieu rural, 1720 à 1840, de Claude Pronovost, aux presses de l'Université Laval.
Ouais, ben c'est la fin de l'été. Comme je dis souvent, ben, j'aime bien profiter de l'été pour parler d'ouvrages là, qui font partie de ce qu'on appelle le fond. Dans le milieu de l'édition, ben, tu sais, il y a les nouveautés, ce qui vient de sortir cette année, puis il y a le fond. Et ce qui est un peu dramatique dans le milieu de l'édition, c'est que souvent, ben, les nouveautés sont en librairie pendant 6 mois, un an et demi, puis après, ben, ils repartent. Parce que, bon, les librairies n'ont pas les moyens de garder effectivement tous les ouvrages qui ont été publiés de tout le monde. Donc, la plupart du temps, c'est assez facile. Il y a un ouvrage qui t'intéresse, tu vas en librairie, tu le commandes, puis il va assez rapidement arriver. Mais ces ouvrages-là qui font partie de ce qu'on appelle le fond, ben, si tu ne sais pas qu'ils existent, tu ne peux pas tomber dessus par hasard parce que ben, il n'est plus en librairie la plupart du temps. Ah, il y a beaucoup de ces ouvrages-là qui font partie du fonds qui sont particulièrement intéressants. Puis, bon, les presses de l'Université Laval ont un fonds qui est vraiment passionnant. Et ben, cet ouvrage-là en fait partie. Donc, j'étais comme, profitons de l'été à un moment où il y a un petit peu moins de nouveautés pour faire découvrir aux auditeurs des ouvrages qui ont été super importants, demeurent super pertinents aujourd'hui, comme celui-là de Claude Pronovost.
Alors, la bourgeoisie marchande.
Ouais.
Mais qu'est-ce que c'est, la bourgeoisie marchande?
Ben, la bourgeoisie marchande, grosso modo, c'est quand même un spectre qui est quand même assez grand. Donc, c'est des petits commerçants qui sont du côté... c'est ça, c'est la bourgeoisie marchande en milieu rural. Donc, ça peut être des petits commerçants, des forgerons, des aussi... c'est ça, des marchands généraux, des boulangers, ce genre de choses-là. Et bon, il y a tout un spectre. Donc, c'est à la fois, effectivement, des petits commerçants, des marchands un petit peu plus établis, des marchands prospères, et éventuellement, c'est ça, des notables qui vont commencer tranquillement à former une bourgeoisie rurale, vont avoir investi dans des terres, vont des fois même acheter des seigneuries puis devenir seigneurs. Donc, c'est tout un spectre. Et un des intérêts de l'ouvrage de Claude Pronovost, c'est que ça permet de voir que, bon, c'est cette bourgeoisie marchande, ces élites rurales-là, ben, c'est pas effectivement seulement, ben, par exemple, le seigneur Casgrain ou le seigneur Dionne sur la rive sud, qui, bon, dans les deux cas, sont des commerçants qui ont fait quand même fortune et qui sont devenus par la suite, bon, des seigneurs après avoir eu une belle carrière de marchand, mais c'est aussi effectivement tout plein de petits commerçants qui sont un petit peu moins connus. Grosso modo, il s'est basé sur un groupe d'à peu près 350 personnes. Certains qui ont une carrière très courte, certains qui ont une carrière plus longue. C'est des gens qui sont principalement de la rive nord de Montréal, donc de l'île Jésus et à peu près de la région de Saint-Benoît jusqu'à Lachenay, là, sur la rive nord de Laval. Donc, à partir de cette étude de cas-là, ben, il a été capable de montrer ben, c'est quoi l'importance de cette bourgeoisie marchande-là et c'est quoi son rôle. Les questions qui s'est posées, c'est un petit peu ben, qui sont ces marchands ruraux-là, comment est-ce qu'ils ont fait de fortune et quelle place est-ce qu'ils occupent dans la société rurale de la fin de la Nouvelle-France et du début du régime anglais.
Est-ce que c'est un peu dans l'ouvrage des vignettes qui nous présentent justement tous ces différentes bourgeoisies marchandes-là puis l'impact qu'elle a eu à cette époque-là?
Non, on n'est pas dans, je dirais, un dictionnaire biographique où là, ben, on aurait un bourgeois, un autre bourgeois, ouais, un autre bourgeois. On est davantage dans une étude globale de qu'est-ce que sont les marchands. En histoire, on appelle ça de la prosopographie. Donc, la prosopographie, grosso modo, c'est de la biographie collective. Si ben, je fais ta biographie à toi, ben là, je vais avoir une biographie d'une artisan de la radio. Mais si je fais ta biographie à toi, que je croise avec toutes les autres personnes qui font de la radio au Québec, ben là, l'idée, c'est d'avoir un petit peu genre le profil type de qui sont les personnes qui font de la radio. Grosso modo, ils ont à peu près quel âge, ils viennent d'à peu près quel milieu, etc. Et donc, c'est ce qu'a fait Claude Pronovost. Donc, il essaye de trouver c'est qui le marchand bourgeois typique, c'est quoi son rôle dans la collectivité, et ça donne quelque chose qui est beaucoup plus large et qui permet de mieux connaître effectivement, au final, un milieu social.
Qu'est-ce qui les rejoint tous, ces bourgeois marchands-là? Parce que, comme tu l'as dit, ils viennent de différents milieux, ils ont différents savoir-faire aussi qui sont différents, mais qu'est-ce qui les unit au final?
Ben, je dirais que ce qui les unit, grosso modo, c'est qu'ils vont tous contribuer au développement de noyaux villageois. Ils vont tous, à plus ou moins grande mesure, ils vont tous contribuer aussi à un lien entre les campagnes et les milieux plus urbains. Parce qu'au final, les marchands, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, ben, ce qu'ils vont faire, c'est souvent venir collecter les ressources qui sont développées dans les campagnes. Donc, éventuellement, les récoltes, le blé, etc., le bétail. Et ben, ils vont amener ça vers les milieux urbains. Puis, en contrepartie, ben, ils vont récolter, mettons, des produits manufacturés, des chaussures, ce genre de choses, des ouvrages un petit peu de quincaillerie, la ferronnerie, puis le genre de choses qu'on ne fait peut-être pas sur place. Et ils vont amener ça dans les milieux ruraux. Donc, ce qui les unit, je dirais, c'est effectivement qu'ils sont cette espèce de pont entre les deux collectivités. Ce qu'on voit aussi, c'est que ben, ils vont jouer un rôle quand même assez important dans le crédit. À l'époque, il n'y a pas encore de banque. Et donc, puis, ben, mettons que tu as une ferme, tu as effectivement une production agricole, puis là, ben, tu n'as pas encore ta récolte. Fait que concrètement, tu n'as pas encore d'argent tant que ça. Mais à la fin de l'été, quand tu sors ta récolte, tu vas en avoir de l'argent. Donc là, ben, tu as par contre besoin de choses dès maintenant chez le marchand. Fait que là, ben, tu vas lui dire, ben, écoute, je te prendrai ça, peux-tu l'inscrire sur mon compte? Et là, le marchand, il l'inscrit, puis à la fin de l'été, quand tu viens vendre ta récolte, ben, il te donne pas tout ce que tu devrais avoir pour ta récolte, parce qu'effectivement, ben, t'as des arrérages, puis là, ben, hop, cette partie-là, je te l'avais avancée. Donc, les marchands vont aussi jouer un rôle assez important dans la circulation du crédit, dans la possibilité, effectivement, d'investir.
Des réalités, puis des réalités de chacun, en fonction de... C'est sûr que si toi, tu récoltes les légumes racines, ben, ils viennent pas au même moment que certains fruits, ou etc., ou autres produits quelconques.
Et non, ça donne effectivement un ouvrage qui est assez intéressant, encore être d'actualité aujourd'hui, puis qui nous permet de connaître une bourgeoisie marchande en milieu rural qui est trop peu connue, parce que souvent, ben, on avait plus développé les marchands en ville qui étaient plus connus, etc. Puis ben, grâce à son étude, notamment des documents notariés, Claude Pronovost a vraiment pu nous permettre de mieux connaître ce groupe social-là, de mieux voir son rôle dans le développement de l'économie rurale, parce que bon, c'est des gens qui, une fois qu'ils ont fait de l'argent, souvent, ils vont investir dans des terres. Ou ben, mettons que toi, ben, tu as eu une mauvaise récolte à la fin de l'été, tu n'es pas capable de payer, ben, le marchand il va venir saisir ta terre. Puis là, à un moment donné, ben, ces terres-là, dans certains cas, ils y revendent, mais dans d'autres cas, ils utilisent pour faire de la spéculation, pour être capable de se bâtir un petit empire foncier. Donc, ça devient aussi des acteurs qui sont assez importants dans le foncier, dans la propriété agricole rurale. Donc, un chouette ouvrage pour être capable de connaître un milieu dont on ne se doute pas à quel point il a été important à une certaine époque.
Et pour le quatrième ouvrage du jour, tu nous présentes l'agriculture avant la naissance de Solio, 250 ans d'action collective de la Nouvelle-France à 1922, un ouvrage de Jean-Pierre Girard chez FID.
Ouais, ben, en toute franchise, puis là, bon, c'est un peu gênant, là, mais moi, quand j'ai commandé cet ouvrage-là, j'avais vu la couverture, j'avais vu effectivement que c'était un petit ouvrage, puis ben, j'étais comme Solio. C'est qui ça, Solio? Ça doit être effectivement un personnage d'enfant ou quelque chose un peu comme ça. Puis ben, j'avais l'impression que c'était vraiment un ouvrage qui visait à rendre accessible aux plus jeunes l'histoire agricole, un petit peu de la Nouvelle-France jusqu'en 1922. Or, quand je me suis plongé dedans, ben, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. En fait, Solio, c'est un groupe coopératif qui a été fondé en 1922, d'où effectivement l'ouvrage qui s'arrête à cette époque-là. Et ben, Solio, c'est vraiment c'est l'ancienne coopérative, les coopératives fédérées. Donc, c'est un groupe de coopératives qui a été réuni en 1922 à Québec, dans la cour du Recordeur à l'Hôtel de Ville de Québec, et bon, qui va rassembler trois coopératives. La coopérative des Fromagers de Québec, le comptoir coopératif de Montréal et la Société des producteurs de semences de Sainte-Rosalie, grosso modo à Saint-Hyacinthe. Et ces trois coopératives-là vont se mettre ensemble et vont devenir un acteur majeur du milieu agricole au 20e siècle. C'est une compagnie qui existe encore aujourd'hui, qui bon, s'appelait jusqu'à tout récemment les coopératives fédérées, qui maintenant ben, portent le nom de Solio. Grosso modo, le groupe BMR, là, les quincailleries, c'est ouais. Solio. Olimel, les abattoirs, et effectivement, bon, l'industrie bon, de la viande, c'est Solio. C'est un chiffre d'affaires de 8 milliards par année, Solio. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est super importante, qu'on trouve à Québec sur le boulevard Champlain, même si leur siège social est à Montréal. Et donc, c'est un ouvrage qui vise à nous montrer à quel point, effectivement, ben oui, il y a des entreprises privées qui existent au Québec et qui font beaucoup d'argent, qui jouent un rôle important dans l'économie, mais il y a aussi des coopératives. Il y a aussi effectivement un autre modèle de développement économique, particulièrement du côté de l'agriculture, qui est important. Et ce que on a voulu montrer, c'est ça, puis l'auteur, bon, vraiment issu, bon, c'est ça, des HEC, etc. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire économique du Québec. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que, bon, ben, ces coopératives-là, ils apparaissent comme pas par magie en 1922. Au final, au Québec, on a toujours eu une tradition de coopérative, une tradition d'entraide, particulièrement dans le milieu agricole, qui a permis à ce genre de choses-là d'exister.
C'est fait un peu naturellement, en fait, avant même qu'on y mette une étiquette puis qu'on appelle ça une coopérative.
Exact. Et donc, ben, l'auteur commence avec, bon, la Nouvelle-France. Il nous parle, bon, des corvées qu'il y avait à l'époque. Mettons, ben, pour refaire les chemins, il fallait effectivement que tous les censitaires se mettent ensemble et fassent la voirie parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas de ministère des Transports qui s'occupait de refaire les routes. C'était, bon, aux voisins, aux travailleurs agricoles de se mettre ensemble et de faire ça. Donc, on voit que dès l'époque de la Nouvelle-France, il y a une tradition d'entraide. Il y a aussi les corvées qui visent à faire, bon, des travaux, des fois agricoles ou des travaux d'infrastructure. Structures agricoles qui vont être un peu plus importantes. Puis, ben, on voit tranquillement, pas vite, l'évolution effectivement de ces réseaux d'entraide qui vont exister, particulièrement au 19e siècle, avec effectivement beaucoup de coopératives dans le milieu du bar et des fromages. Parce que, ben, quand effectivement tu fais pousser des légumes, quand tu fais pousser du blé, grosso modo, ça donne à peu près toujours du blé, tu le vends aux mêmes personnes et ça va. Alors que là, ben, si toi tu fais du fromage, puis que moi j'en fait, puis que nos fromages sont un petit peu différents, ben là, ben, l'acheteur, lui, il s'attend à avoir une certaine uniformité. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une coopérative qui va être capable d'amener une certaine uniformité dans le produit, qui va aussi ben, améliorer la qualité du produit, qui va ben, permettre de trouver des débouchés. À la fin du 19e siècle, le fromage qui est fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean va être vendu sur les marchés anglais en Angleterre. Mmh. On voit également bon, des exportations agricoles vers les États-Unis. Donc, ces coopératives-là vont aussi négocier des prix, organiser la commercialisation et vont jouer un rôle particulièrement important dans l'expansion, effectivement, du modèle agricole québécois. Et quand on pense aux coopératives, bien souvent, on pense à Desjardins. Puis, ben, quand on regarde l'histoire de Desjardins, on se rend compte qu'Alphonse Desjardins regardait beaucoup ce qui se faisait en Europe à l'époque. Puis il s'est dit, ah tiens, je pourrais moi aussi fonder une coopérative financière, bancaire, en créant les coopératives, une coopérative. Mais bon, ce que l'ouvrage de Jean-Pierre Gérard vise à faire, c'est de montrer que, bon, ben, avant qu'on regarde du côté européen ce qu'on pouvait faire en termes de coopérative, il y avait déjà des traces de coopération dans le milieu agricole au Québec depuis la Nouvelle-France au 19e siècle. Et donc, ben, dans l'ouvrage, effectivement, on voit tout le rôle du clergé, le rôle des élites locales et rurales qui ben, permettent effectivement de développer ce genre d'initiative-là.
Merci grandement, Alex, pour ces quatre recommandations. Tu peux nous les redire en rafale, s'il vous plaît?
Avec grand plaisir. Et donc, Nicole Dorion-Poussard nous a offert La convoitise des puissances de l'Europe aux Amériques, un ouvrage publié aux éditions Gide qui permet de replacer dans le contexte l'appétit des puissances européennes pour le territoire en Amérique du Nord. Ensuite, on a parlé de la colonisation de l'Amérique du Nord et de la Sibérie, une étude comparative 16e-18e siècle de Yuri Akimov, traduit en français par Mikhaël Poplianski.